en fait, on va aller du plus loin de la crise, au niveau du renseignement, jusqu'au plus près. Donc au départ, ça va être du drone extérieur, voilà, pour prendre du renseignement, des robots avec une possibilité d'élongation assez importante. Et puis au fur et à mesure, on va se rapprocher pour mettre en place. Alors on a des petits robots, on a de la vidéo, on a des fibres, on a tout un tas de matériel qui vont nous permettre d'avoir du renseignement avant l'intervention. Et on finit par ce qu'on appelle nous le matériel de contact. Donc c'est du matériel que chaque opérateur du Ghost va avoir sur lui lors de l'intervention et qui vont permettre justement donc drones d'intérieur, des robots qui vont permettre en fait d'avoir de l'information en amont avant la progression de la colonne ou si jamais elle est bloquée, comme on dit des fois la colonne est bloquée, donc à partir de ce moment-là on va envoyer ces matériels-là pour prendre du renseignement et pouvoir permettre au chef d'équipe de choisir la stratégie à adopter. Voilà.
Bienvenue dans cette mini-série exclusive du podcast Défense Zone consacrée au RAID, l'unité d'élite de la police nationale. Dans ce nouvel épisode, nous partons à la rencontre du GHOST, le groupe opérationnel de soutien technique. Nous souhaitons une bonne écoute. Donc nous sommes à Bièvre avec en compagnie du brigadier chef Patrice au RAID. Est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Bonjour, moi je suis brigadier chef au groupe opérationnel de soutien technique. Depuis septembre 2008. Je suis marié, j'ai deux enfants, j'ai commencé ma carrière dans un commissariat, ensuite j'ai fait unité départementale. Ensuite j'ai fait pendant 4 ans le SPHP de l'époque, qui maintenant est le SDLP, c'est-à-dire donc service de protection des hautes personnalités. Voilà, et puis en septembre 2007, j'ai fait les tests du RAID pour le groupe technique. Et j'ai été pris et je suis arrivé en septembre 2008.
Au sein du SDLP, vous faisiez aussi la même spécialité ?
Non, au sein du SDLP, je faisais de la protection classique. J'ai commencé par être conducteur et puis après, j'ai été officier de sécurité sur différentes personnalités.
D'accord. On a eu le plaisir de rencontrer les gens du SDLP et leur porte-parole justement pour parler de cette spécialité intéressante de la police nationale. Il y a des similitudes avec... Les spécialités, ils font aussi un peu de renseignement parfois ?
Alors, ils font plus de la sécurisation. Et nous, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'heure actuelle, on est de plus en plus sollicité par des groupes comme le GSPR, donc qui s'occupe de la protection du président, ou certains ministres qui nous demandent en fait de sécuriser des zones ou de les aider sur de la protection rapprochée, soit lors de grands événements, soit sur des déplacements un petit peu atypiques des différentes personnalités.
Donc, des échanges entre les deux services.
Voilà. Donc en fait, c'est intéressant parce que moi, j'ai une bonne connaissance de cette matière. Donc ça nous a permis de travailler avec eux, et de plus en plus, avec le développement du drone, c'est un peu plus simple maintenant d'avoir des visus un peu d'ensemble. Et surtout, c'est qu'on peut, avec un drone, renvoyer les images. Et donc, ils ont les images en direct, sur des convois, un petit peu sur des missions un peu sensibles. Ça peut être intéressant pour eux. Donc, c'est là-dessus qu'on va travailler.
Donc, le GHOST, c'est classe comme acronyme.
oui, alors je pourrais pas vous dire d'où ça vient parce que c'était déjà en place avant que j'arrive. Mais ça regroupe bien un petit peu, ça résume bien notre travail, c'est-à-dire le groupe opérationnel de soutien technique. On est vraiment là pour un soutien technique sur les différentes missions du RAID. Donc sur les différentes missions, il y en a plusieurs des missions du service, mais à chaque fois, nous, notre rôle, ça va être d'apporter un apport technique qui puisse permettre soit la facilité, soit pour réussir, au mieux la mission. Donc ça peut être vraiment sur différents niveaux. Hein. En intervention, là, ça va être tout ce qui est matériel pour aider à l'intervention. Donc comme je disais, c'est pour l'aide à la décision de la hiérarchie. Donc des fois, ça peut être prise en compte de l'environnement avec un drone et puis pour trouver par quel endroit la colonne va pouvoir progresser. Et puis après, au fur et à mesure, on va se rapprocher de la crise. Et on a différents matériels qui vont nous permettre en fait, d'être les yeux et les oreilles un peu de la colonne avant l'intervention. Voilà, donc ça c'est une des premières missions. Après, la protection, on en parlait. Donc, on va aider le SDLP, qui souvent n'ont pas obligatoirement les moyens de le faire et puis les effectifs pour, parce qu'ils sont vraiment focalisés sur la protection rapprochée de la personnalité. Donc, on va peut-être déployer certains moyens techniques de façon à suppléer un petit peu les manques qu'il peut y avoir, surtout sur les grands événements. Sur les grands événements comme le G7 par exemple, où on avait déployé plusieurs équipes avec des drones, soit pour faire des levées de doute, soit pour avoir des images en temps réel quand il y avait des déplacements en extérieur et autres, plus une partie de lutte anti-drone qui fait partie intégrante maintenant du service, avec même la création d'une nouvelle cellule qui s'occupe, on va dire, à plein temps de la lutte anti-drone. Voilà. Donc ça permet d'avoir cette compétence-là. Après, on a aussi, au niveau de la protection, on a aussi le renforcement de nos équipes qui sont en ambassade et qui font aussi la protection des ambassadeurs. Donc là, on va être aussi sollicité pour apporter des moyens techniques de localisation des convois ou de mise en place de certains dispositifs vidéo et autres. Et puis aussi, on va être aussi conseil sur des matériels qu'on pourrait déployer pour justement apporter un peu plus de sécurité au niveau de la protection des ambassades, voire des ambassadeurs lorsqu'ils sont en déplacement.
D'accord. Donc ça, c'est le panel des missions qui...
C'est donc intervention, protection. Ensuite, on a d'autres missions qui sont un petit peu atypiques, mais qui arrivent souvent aussi. La protection, c'est donc on a parlé des protections des personnalités, mais ça peut être aussi la protection lors de... comme en ce moment, c'est pas nous qui sommes dessus, mais on pourrait être dessus sur des grands procès, des palais de justice, parce qu'on va aussi aider nos équipes qui souvent font des extractions de détenus sensibles. Donc là, on peut être amené soit à travailler en tant que policier du raid, donc à les aider en étant précurseur pour leur faciliter l'accès aux différents sites, soit en mettant des matériels techniques pour augmenter encore plus la sécurité de la protection de cette personne, de la prison jusqu'à l'endroit où elle doit être auditionnée. Voilà. Donc ça, c'est une autre partie de notre travail. Et puis après, on a aussi d'autres rôles qui sont, moins dans l'action, mais qui sont aussi la recherche et développement. Parce que ça, c'est un groupe technique, donc on doit toujours être à la pointe de ce qui se fait et être au courant de ce qui se fait. Dans la recherche et développement, il y a, on va dire, soit c'est des fournisseurs qui viennent nous présenter des produits. Et puis là, on regarde si c'est un produit qui peut nous intéresser, si c'est un produit qui peut être modifié. Donc on peut demander aussi des modifications ou des axes d'amélioration du produit. Soit on va faire des salons. Là, bientôt, il va y avoir Millipol. Donc ça nous permet aussi d'aller voir un petit peu ce qui se fait, quels sont les nouveaux enjeux, quelles sont les nouvelles technologies. Ça peut être aussi avec des échanges, par exemple, avec le groupe Atlas. Donc le groupe Atlas, en fait, c'est tous les groupes d'intervention européens qui se réunissent sur des thématiques. Donc il y a un échange assez important. Et par exemple, c'est lors d'un échange Atlas qu'il y a pratiquement maintenant 4 ans, on a découvert un groupe d'intervention qui utilisait un drone d'intérieur. Et voilà, donc déjà, nous, on était à la recherche. C'était une recherche qui était assez, assez importante depuis quelques années. Et eux, on a vu un produit qui était intéressant. Et voilà, et on a commencé à travailler dessus, à appeler le fournisseur, etc. Donc en fait, il y a vraiment beaucoup de voies sur la R&D. Et puis après, la R&D, c'est aussi un moyen pour le groupe opérationnel de soutien technique d'apporter des pièces pour améliorer en fait un matériel. C'est-à-dire qu'on a des matériels, mais nous on va aussi travailler pour réfléchir par rapport à des problématiques qu'on a vues sur intervention ou par rapport à des axes d'amélioration qu'on se dirait ça va nous apporter, ça va être vraiment une plus-value. Donc là on va essayer, excusez-moi du terme, mais un peu bidouiller, essayer de trouver. On a des imprimantes 3D pour faire des nouvelles pièces. On va chercher des nouveaux moyens d'avoir toujours dans la même veine, c'est-à-dire d'avoir du renseignement, d'essayer de récupérer du renseignement afin que l'intervention, ils aient le maximum de renseignements pour prendre leurs décisions au vu de l'intervention.
Vous avez vos propres imprimantes 3D ?
Oui, on a des imprimantes 3D et on a des logiciels pour pouvoir créer des pièces et puis tester des choses parce qu'en fait on fait beaucoup de tests. Donc ça fait vraiment partie de la R&D et ça fait vraiment partie de la veine du membre technique au service. On doit aussi toujours être ouvert d'esprit et essayer toujours de chercher à améliorer, à trouver des nouveaux moyens, toujours évoluer. Je pars aussi du principe qu'on cherche aussi à travailler avec tous les groupes du service. Donc on va travailler avec les fractions sur différentes solutions. On va travailler avec le groupe Sino. Par exemple, avec le groupe Sino, on travaille sur le fait d'envoyer le chien avec un drone. On travaille avec tous les groupes. Donc c'est aussi ça le travail du service. C'est-à-dire que tout le monde travaille pour tout le monde et on essaye de faire évoluer de façon à ce que la technique devienne, on va dire, incontournable, ça serait peut-être un mot un peu fort, mais soit vraiment une plus-value pour l'intervention, quelle que soit la spécialité qu'on est dans la colonne.
Ça me fait penser qu'on renvoie nos auditeurs au podcast qu'on a fait avec Erwan, c'était MC Click, qui travaille beaucoup avec notamment le groupe à Monaco, qui a développé un petit drone indoor, et qui parle d'impression 3D, de drones et de pas mal de technologies. Sur l'industrie du drone, j'imagine que vous avez un regard particulièrement pointilleux. Est-ce que le RAID est à la pointe par rapport aux autres groupes, justement, le groupe Atlas ? Comment ça se passe ? Est-ce que vous regardez un peu ce que font les voisins, pour être toujours au même niveau ou au-delà ?
Tout à fait. En fait, nous, on a le drone, c'est depuis, l'un des groupes, je pense, les précurseurs en 2010. En 2010, on a commencé vraiment à avoir du drone. Alors, on en avait avant, mais c'était des voilures fixes. Et c'était pas, on va dire, c'était vraiment l'ère du gros drone. C'était vraiment pas opérationnel. Et à partir de 2010, on a commencé à travailler sur les drones. Donc en drone extérieur, on est vraiment à la pointe de ce qui se fait à l'heure actuelle sur différents. Donc on a des gros porteurs, des moyens porteurs, des petits. Et sur le drone intérieur, ça fait quand même maintenant pratiquement 4 ans qu'on travaille vraiment avec une société. On a fait évoluer le produit avec la société. Et on a été un peu les précurseurs parce qu'on avait vraiment au début, c'était des drones qui étaient, on va dire, qu'ils étaient en recherche de savoir est-ce qu'ils allaient le commercialiser ou pas. Donc voilà. Donc on est vraiment là, sur les drones. Je pense qu'on est l'un des groupes qui avons le plus travaillé dessus. Mais ça, c'est la force du service d'avoir un groupe qui est dédié à ça. C'est-à-dire qu'en fait, sur les groupes Atlas, on n'a pas encore rencontré de groupe, si je ne m'abuse, qui est vraiment un groupe dédié à la technique. C'est-à-dire qu'au service, on a vraiment des groupes spécialisés. On a dans la section d'appui opérationnel, on a les Sino, on a les Tech, on a les THP, et chacun devient spécialiste. Donc c'est une force pour le service d'avoir de telles spécialités parce que ça nous permet en fait d'évoluer un peu plus vite parce que on a des compétences et on les met au service de l'ensemble.
D'accord. En face de vous, les entre guillemets les méchants commencent aussi à pas mal s'équiper en termes de drones. Comment vous gérez ça ?
Alors, comme vous dites, c'est pour ça que la R&D est importante. Quand je dis la R&D, parce que on va regarder ce qui se fait, on va dire chez les amis, mais aussi ce qui se fait sur les théâtres extérieurs, parce qu'on sait très bien que ce qui se passe sur les théâtres extérieurs peut arriver sur le territoire national. Donc on travaille dessus. On a créé une cellule donc au sein du RAID qui s'occupe de la lutte anti-drone, qui est avec plusieurs industriels pour travailler sur cette problématique-là, parce qu'on sait que c'est une problématique du futur. qui est déjà présente, mais qui, voilà. Donc on est vraiment à la pointe là-dessus et on essaye d'être, d'être au plus près en fait, des réalités vis-à-vis des drones. Donc la lutte anti-drone, oui, c'est vrai que ça, ça prend une ampleur assez importante. En plus, au vu des, de ce qui va arriver, c'est-à-dire 2023, la Coupe du Monde, 2024, les Jeux Olympiques. Donc, voilà. Donc là, on est vraiment à la recherche du produit. Alors pour l'instant, et comme beaucoup dans la technique, on ne trouvera jamais le produit parfait. Mais on peut s'en approcher en combinant, justement, c'est la force un peu de, du service et surtout des groupes techniques, c'est d'essayer de combiner différents, différents produits de façon à arriver à, on va dire, une couverture assez, assez importante. Mais c'est, oui, c'est quelque chose sur lequel on a un regard très attentif parce qu'on sait que c'est une menace qui est importante. Mais de toute façon, toutes les évolutions technologiques qu'on a pu avoir au niveau du groupe, moi, ça fait 13 ans que je suis là, on a vu l'évolution de la technologie et de la technique et l'ampleur que ça a pris. Preuve en est, c'est que au début, il n'y avait qu'un groupe à l'unité centrale et là, on vient de créer une antenne dans le sud qui pourra apporter un soutien technique aux antennes du Sud. Et même dans les antennes, on a commencé à déployer, même s'il n'y a pas de techniciens, que ce sont des opérateurs qui vont utiliser les matériels, certains matériels techniques pour l'intervention. Donc la technique a pris une ampleur qui maintenant, on ne pourra plus faire machine arrière. Enfin, la technologie avance, avance à grands pas. Et voilà, nous, notre but, c'est aussi de trouver des matériels intéressants que justement nos antennes peuvent utiliser, qui vont vraiment faciliter leur travail, sans pour autant être des matériels que très spécifiques, comme nous on peut utiliser, où là il y a quand même du travail derrière, il y a une interprétation et autres du matériel, donc voilà. Mais on est là nous aussi pour aller les aider si s'il y a une crise importante, il y aura toujours des gens du groupe qui partiront avec des matériels plus spécifiques pour aider encore un peu plus face à une crise importante.
D'accord. Au sein de cette section du Ghost, vous êtes combien ?
On est 8. D'accord. On est 8, donc 8 à l'EC et on a deux effectifs qui sont à l'antenne de à l'antenne du Sud. Voilà, donc ça fait 10 effectifs. Donc on est 8. On a toujours deux personnes qui sont d'astreinte par semaine, donc qui sont avec le groupe d'alerte. Hein, que si jamais ça sonne, ben c'est eux qui partent. Ils partent avec, avec le groupe. Et après, les autres du groupe ben, vont justement vont faire tout ce qui, est, tout ce qui reste, c'est-à-dire des missions ponctuelles, soit pour le président, soit dans protection, soit on va avoir des gens qui vont partir en stage pour se former, parce que vous en parliez tout à l'heure, mais les drones, bah, y a une spécificité, c'est qu'il faut avoir une formation qui maintenant est une formation police nationale, avec, avec différents, il y a du théorique et du pratique. Donc nous au groupe, on est tous formés pour faire du télépilotage de drones parce que ben, on rentre quand même dans un espace aérien et que cet espace aérien, ben, il y a des règles et puis il faut s'y conformer. Donc, voilà. Donc,
Et cette formation, c'est quoi ? C'est comme ce que fait la DGAC pour les civils ou alors, c'est encore plus poussé ?
On a une partie qui est validée par la DGAC, c'est-à-dire la théorie. Là, c'est vraiment une formation qui a été, bah, qui est en fait remis au goût du jour par la police nationale, mais qui reprend exactement les
c'est
textes.
Les 60 questions.
Voilà, exactement. Okay. C'est ça. C'est un, en gros, c'est un code comme, comme on peut avoir pour le code pour la voiture. Et puis après, on a une, il y a une convention qui a été passée avec le CIFED, donc le Centre d'Excellence Drone de l'Armée de l'Air. Et donc, on va passer 15 jours, et c'est une formation pratique qui nous donne une formation initiale au drone. Ensuite, quand la personne revient de cette formation, nous, au niveau du groupe, on le reprend pour lui faire découvrir les différents matériels parce que cette formation utilise qu'un seul type de drone. Et donc, nous, on va lui permettre de, justement, de prendre en main les différents drones qu'on a et lui faire un vieillissement opérationnel avant qu'il soit vraiment lâché tout seul sur une mission, voire en binôme sur une mission.
D'accord. On parle des drones volants. Est-ce que vous pouvez me parler des drones terrestres ? Est-ce que c'est
oui,
le
a,
du jour
enfin, on a, ben on, alors en fait, comme je vous expliquais, nous en fait, on va aller du plus loin de la crise au niveau du renseignement jusqu'au plus près. Donc au départ, ça va être du drone extérieur, voilà, pour prendre du renseignement. Des robots avec une possibilité d'élongation assez importante. Et puis au fur et à mesure, on va se rapprocher pour mettre en place. Alors on a des petits robots, on a de la vidéo, on a des fibres, on a tout un tas de matériel qui vont nous permettre d'avoir du renseignement avant l'intervention. Et on finit par ce qu'on appelle nous le matériel de contact. Donc c'est du matériel que chaque opérateur du Ghost va avoir sur lui lors de l'intervention et qui vont permettre justement donc drones d'intérieur, des robots qui vont permettre en fait d'avoir de l'information en amont avant la progression de la colonne ou si jamais elle est bloquée, comme on dit des fois la colonne est bloquée, donc à partir de ce moment-là on va envoyer ces matériels-là pour prendre du renseignement et pouvoir permettre au chef d'équipe de choisir la stratégie à adopter. Voilà. Donc on a vraiment un panel de matériel qui va nous permettre d'avoir un maximum de renseignements avant intervention et pendant l'intervention.
Vous regardez un peu ce que font les armées, notamment l'armée de terre avec la section Vulcain, ce genre de choses ?
On a de plus en plus de contacts, mais ça fait des années en fait. On va chercher le savoir là où il est. Et on va dire que c'est un bon échange. Donc beaucoup avec les forces spéciales. Eux viennent chez nous pour voir un peu ce qu'on a et inversement. Donc il y a des échanges, les différentes FS hein, qu'il y a sur le territoire national. Et c'est vrai que même après, on va dire, il y a même des étrangers, hein, des groupes étrangers qui viennent souvent au service pour prendre un peu du renseignement et ainsi de suite. En fait, on fait vraiment des échanges avec tout le monde. Donc on regarde ce qui se fait un peu partout. Donc des fois on s'aperçoit qu'en fait, on a les mêmes fournisseurs, on a les mêmes choses, Mais parfois c'est sur l'emploi ou sur la déviation de l'emploi d'un matériel. Des fois, c'est vrai qu'on n'avait pas pensé que ce matériel-là, on aurait pu l'utiliser dans telle configuration. Donc c'est souvent des... Et cet échange, il est très intéressant parce que ça nous permet, de se jauger aussi, de savoir si, le groupe, on est toujours, on va dire, à la pointe, comme vous disiez tout à l'heure. Et puis ça nous permet aussi de pouvoir apporter un peu notre savoir et un peu de formation à certains groupes. Donc ça, c'est le côté très intéressant du travail aussi.
D'accord. Même si ce n'est pas le cœur de votre métier, vous faites aussi du renseignement sur sur la partie cyber. Est-ce que vous êtes formé à rentrer sur l'ordinateur de quelqu'un ou ce genre de choses ou... Non, ça c'est non. DGSI, etc.
Voilà, exactement. Ça, okay. c'est pas notre cœur de métier. Nous, on n'a pas de formation ni de spécificité là-dessus. C'est à en devenir, pas obligatoirement nous personnellement, mais la nouvelle cellule qui a été formée, la cellule des transmissions, je pense qu'eux, ils vont certainement, à un moment, il faudra travailler dessus, parce que ça devient on connaît avec... on va dire le monde actuel où il y a énormément de communication par GSM, etc. Donc je pense qu'il faudra à un moment se pencher sur ces solutions-là. Mais pour l'instant, c'est pas notre cœur de métier. Nous, on est vraiment le côté opérationnel avec la colonne. On est vraiment avec la colonne et on va essayer d'apporter un maximum de renseignements, on va dire, au plus proche de la crise. Après, c'est sûr que si on peut avoir du renseignement, de façon externe en amont, ça commence à se mettre en place. On a déjà mis en place des bases arrières qui récupèrent un maximum de renseignements, on va dire, en source ouverte pour nous apporter un maximum déjà de renseignements avant même d'arriver sur le lieu de crise. Donc je pense que voilà, ça sera c'est en devenir, mais ça, c'est pas moi qui suis maître là-dessus.
Et tout ce qui va être système de brouillage ou de ce genre de choses, c'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe ?
Alors, le brouillage, c'est une thématique qui est quand même assez, assez complexe. Nous, on va avoir du brouillage pour vraiment maîtriser tout ce qui est brouillage sur une pièce ou sur un appartement. Voilà, on va avoir des brouilleurs. On va choisir les bandes de fréquence en fonction de ce qu'on veut brouiller, si on veut brouiller du GSM, etc. Ou alors parce que on sait que c'est quelqu'un de très sensible et qu'il peut y avoir potentiellement une possibilité de déclenchement de divers choses avec du GSM ou autre. Donc là, on va être capable, aux proches, en local, de brouiller. Maintenant, faire des brouillages, on va dire, à grande ampleur, ça, c'est pas, non, nous, ça, c'est pas notre cœur de métier. Surtout que le brouillage, pour moi, c'est vraiment un métier à part. C'est-à-dire qu'il y a énormément de critères à prendre en compte. Et tous ces critères-là, il faut être, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire à un moment, on ne peut pas être spécialiste dans tout. Voilà. Donc nous, on a déjà énormément de matériel sur lequel il faut qu'on soit compétent, énormément de choses à gérer. Donc je pense qu'il faudrait, vraiment des gens qui s'occupent que de ça. Et je pense que là, je m'avance peut-être, mais je pense que on ferait appel à des services qui ne font que ça ou qui sont vraiment pointus. Mais nous, sur notre intervention, le principe, ça sera de brouiller, comme je vous disais, une pièce, un appartement, et ça, on est capable de le faire.
D'accord. En termes de recrutement, pour rentrer dans cette section, il y a quelque chose en plus que le recrutement classique pour aller au RAID ?
On va dire, beaucoup pensent qu'il faut être technicien. Non, il ne faut pas être technicien. On ne demande pas obligatoirement à une personne d'avoir un bagage technique. Si elle l'a, tant mieux. Mais il faut répondre à tous les critères. Donc, c'est-à-dire, les critères, c'est on a une base commune avec toute personne qui rentre au RAID. Donc, il y a des tests, donc il y a du physique, il y a du physique, du sens policier, etc. Et en plus, ils vont passer, lors de ces sélections, des scénarii, pas mal de petites scénarii techniques. Pas obligatoirement pour savoir s'ils savent utiliser les matériels, du fait que ces matériels sont très spécifiques et ne sont qu'au RAID. On s'attend pas à ce qu'ils aient. Alors, on leur présente le matériel, on leur montre comment le déployer. Mais après, c'est plutôt le sens policier, leur manière d'appréhender les choses, leur manière d'interpréter les choses. Et surtout, quelque chose, la qualité principale qui est recherchée, c'est la capacité de se repérer dans l'espace. Parce que la plupart des matériels que nous allons mettre en place quand nous sommes dans la colonne, nous n'aurons pas vu direct sur notre matériel. Donc en fait, il faudra très très vite savoir se repérer de façon à ce que toutes les informations qu'on va donner soient pertinentes et puis surtout soient justes. Si on commence à se tromper entre notre gauche, notre droite, ou qu'on ne sait pas où se situe la colonne, ça va être compliqué de donner du renseignement. Donc en fait, on a beaucoup de tests comme ça. Savoir aussi, leur capacité à maîtriser, justement, quand on ne maîtrise pas un matériel, quand on ne maîtrise pas une situation, savoir si le stress va être positif ou négatif. Et puis savoir aussi leur interprétation de comment je me comporte, où est-ce que je me place, etc. Voilà. Il y a tout ça qui est... Et on va monter, en fait, tous les exercices sont montés de façon à ce que ça monte crescendo. Et après chaque exercice, il y aura un débriefing. Et c'est aussi une manière pour nous, en fait, c'est un véritable test, parce que chaque exercice, comme il est débriefé, on verra si la personne intègre les remarques et les conseils qui lui ont été donnés pour l'exercice suivant, et ainsi de suite. Parce que ça, c'est très important pour nous. Nous, on ne cherche pas obligatoirement des profils de techniciens, parce qu'on est policier avant tout, mais on cherche quelqu'un qui ait une appointance pour la technique et qui aussi intègre très vite. Voilà, qui est capable, ce n'est pas une personne qu'on va répéter 10 fois les choses. Donc une fois que l'information est donnée, il la digère, il l'intègre, et à partir de ce moment-là, on peut avancer. Parce que, nous, les matériels évoluent assez vite. Donc il faut, pour la personne qui arrive, il faut qu'elle intègre tous les matériels qu'on en a, plus souvent des matériels qui viennent d'arriver avec une évolution spécifique. Et en plus, maintenant on commence, il y a un peu d'IP, il y a un peu de tout ça, donc il faut quand même avoir une facilité à intégrer les choses. Donc c'est tout ce petit profil-là que l'on va regarder, et en plus de ça, il faut rester, pendant le recrutement, il faut rester aussi dans les moyennes de tous les tests communs qu'il y a. Donc c'est un peu ça le principe du recrutement chez nous, mais voilà.
Et les gens qui candidatent veulent intégrer cette section ?
Oui, ouais. C'est ce qu'on va regarder aussi un petit peu dans la lettre de motivation. Si la personne nous fait une lettre de motivation sur le service, mais qu'à aucun moment elle parle de la spécialité pour laquelle elle va postuler, C'est un peu délicat parce que nous, on veut des gens qui soient. Nous, par exemple, au groupe, il n'y en a pas un qui voudrait changer de spécialité. C'est la spécialité qu'on a choisie, c'est la spécialité pour laquelle on se bat tous les jours et qu'on adore et pour laquelle on ne voudrait pas changer de spécialité, on ne voudrait pas changer de section. Donc ça, on veut vraiment le sentir sur le candidat, que ce soit vraiment un choix et pas un choix par défaut j'aime bien la technique, donc je vais me mettre voilà. Donc après, c'est vrai qu'une personne qui a un profil technique, bah, il va plus rapidement, prendre en compte les matériels et donc il va être plus rapidement à l'aise par rapport à quelqu'un qui vient, qui n'a aucune connaissance technique, si ce n'est des connaissances théoriques. Parce que souvent, nous, ce qu'on demande aussi, c'est qu'ils aient un peu bûché un peu avant, les connaissances théoriques classiques, hein, un peu d'électricité, un peu d'électronique, un peu d'IP. Voilà, ça montre déjà l'intérêt qu'il y a à la matière, quoi.
J'imagine que ça doit être intéressant pour quelqu'un qui quitte ensuite le service, une fois qu'il a passé peut-être l'âge limite d'être en colonne d'assaut ou pour ensuite retrouver un boulot facilement dans le civil, non? D'avoir autant de background technique.
Il est vrai que du fait d'avoir beaucoup de contacts avec les fournisseurs sont souvent... on va dire limités parce qu'ils ont beaucoup d'ingénieurs qui travaillent sur des produits, qui développent des produits, mais qui n'ont pas ce regard, on va dire, opérationnel. Et souvent, c'est ce qu'ils recherchent. Ils recherchent d'avoir des gens qui ont connu l'opérationnel et qui vont donner leurs petits conseils pour faire évoluer ou développer le produit ou améliorer le produit. C'est ce qui nous arrive assez souvent, hein. On a plusieurs produits qu'on a où on a commencé à travailler avec des sociétés et puis on a fait évoluer le produit sur des choses basiques, hein, des boutons marche arrêt qui étaient mal positionnés et voilà, et quand on leur faisait comprendre que bah oui, on tape un mur et ça éteint le robot, bah voilà, c'est dommage quoi. Donc voilà, c'est des petits exemples, mais c'est des choses que voilà, on travaille beaucoup, donc c'est vrai que eux ils sont très friands de ça. Donc c'est vrai que quelqu'un qui va quitter le service et qui veut repartir dans le privé, il peut trouver une société qui veulent bien le prendre de façon à avoir un regard plus opérationnel et puis être peut-être, ça leur permet aussi d'être un peu plus au fait de ce qui se fait et de ce qui est demandé et d'arriver avec un produit pratiquement fini, on va dire un produit d'étagère, plutôt qu'un produit où on va leur dire bah ouais mais ça faudra améliorer ça, faudra améliorer ci, voilà. Donc on a un regard, c'est vrai, un peu plus spécifique.
D'accord. Pour terminer cet échange, est-ce qu'il y a un conseil que vous aimeriez donner à quelqu'un qui a envie de se lancer dans cette spécialité ?
S'il y a quelqu'un qui veut se lancer dans cette spécialité, bah déjà de bien se préparer, de se renseigner sur la matière, parce que nous c'est un peu spécifique. Souvent en fait ce qu'on nous reproche c'est que on n'est pas très connu. Donc voilà. Donc,
plus maintenant, parce que vous avez passé dans le podcast
maintenant. Voilà, donc maintenant on sera un peu plus connu. J'espère que ça va créer des vocations. Mais d'être motivé et puis voilà, d'avoir envie de se donner, quoi. Parce que nous c'est ce qu'on recherche, d'avoir des gens très motivés. Et c'est ce qui fait avancer aussi le groupe, hein, parce que les nouvelles recrues. Plus elles sont motivées, plus elles arrivent avec des visions différentes, bah, des fois ça nous fait changer carrément notre vision et puis ça apporte, c'est le principe un peu du service. Hein. On accumule en fait des spécialités de chacun, des qualités de chacun et puis bah, on essaye de monter tout le monde plus haut. Voilà. C'est un peu le but du service, donc nous au groupe c'est ce qu'on recherche.
D'accord. Bah, merci pour cet échange.
Merci à vous.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et à tout de suite dans la suite de cette mini-série consacrée au RAID.